Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. Avec lui, découvrez l'histoire, le patrimoine et la personnalité de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai intitulée aujourd'hui « Quelques notes sur les souterrains et les cavités aménagées de la Basse Marche ». Pour les textes, j'ai utilisé les ouvrages et les auteurs suivants. Le souterrain de Nantia, dans le bulletin du Dolmen Club de Bellac. Recherches archéologiques dans les environs de Saint-Benoît-du-Sault, Delhi de Beaufort. Monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, de Roger Drouot. François Richard, études d'ensemble sur les souterrains refuges dans le bulletin du Dolmen Club de Bellac de 1909, les souterrains médiévaux du Limousin de Serge Gady et les souterrains refuges de la France d'Adrien Blanchet.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Je vais commencer cette séquence par des coupures de presse. Voici ce qu'on pouvait lire dans la presse régionale, l'écho du centre, centre presse et le populaire du centre du 1er janvier 1968. Les titres d'abord. Situé au cœur même de Nantia, un important souterrain refuge deviendra peut-être un musée archéologique. Le souterrain refuge de Nantia est l'un des plus importants de notre région. Les souterrains refuges protégeaient nos ancêtres de la foudre. À Nantia, Haute-Vienne, un groupe de jeunes dégage un souterrain intéressant au plus haut point de l'archéologie. Voici maintenant quelques extraits d'articles de presse. Il s'agit souvent de réponses ou d'explications d'un spécialiste, M. Saumande. L'accès de ce souterrain refuge se fait par un escalier en pierre composé de quelques degrés étroits. Son obstruction est assurée par deux grandes pierres plates. Après avoir déblayé un cône d'éboulis, on parvint à se glisser par l'ouverture pratiquée. On découvrit alors salles et boyaux en parfait état. Cet ensemble est taillé dans le tuf dur. En entrant sur la droite, on remarque l'ouverture d'un puits taillé en cul de four et possédant une margelle. Une sorte de boyau étroit y aboutit et présente l'aspect d'un aqueduc. Le souterrain refuge lui-même est formé par un couloir assez long et taillé en ogive. À son entrée, on remarque deux saignées dans la paroi qui permettaient de mettre des rondins pour l'obstruer. Une salle, assez vaste, se situant à 11 mètres au-dessous du niveau du sol, de 6 mètres sur 3 et de 2 mètres de haut, s'ouvre sur le couloir. On remarque deux curiosités, une alvéole pour l'emplacement d'un luminaire et un siège taillé dans la paroi qui peut accueillir aisément un homme de taille moyenne.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
En fait, ce souterrain de Nantia avait été découvert beaucoup plus tôt. Écoutons ce texte du bulletin du Dolmen Club de Bellac. Le 24, jour de foire à Nantia, de gros bœufs traînant une voiture lourdement chargée vinrent à passer sur la place de la Motte où se tenait habituellement la foire. Il se produisit alors un éboulement là où le sol offrait moins de résistance. Cet incident, fort heureusement, n'occasionna aucun accident sur le champ de foire. L'éboulement mit à jour l'entrée d'un souterrain qui fut alors visité par de nombreux visiteurs. En fait, on n'accorda pas plus d'importance que cela à cette découverte et on décida de combler l'excavation. Mais en décembre 1905, de nouveaux travaux furent entrepris sur cette place de la Motte et on mit à nouveau à jour quelques éléments de ce souterrain refuge. Dès la mi-décembre 1905, des spécialistes vinrent visiter ce souterrain. C'est ainsi que les responsables du Dolmen Club de Bellac l'explorèrent en octobre 1906. Ils découvrent alors plusieurs galeries avec des goulots ou des rainures pour accueillir des portes de bois, des chambres, des cheminées à feu avec de la suie et de la cendre, des cheminées d'aération, des niches pour les torches, etc., etc. Nos explorateurs précisent que actuellement, 100 personnes peuvent rester plusieurs heures dans ces souterrains sans y être incommodées. Les lumières y brûlent facilement lorsqu'on a ouvert l'entrée quelques jours avant pour l'aération. C'est souvent lorsqu'un animal, une vache ou un bœuf par exemple, s'enfonce dans le sol ou à la faveur de la réalisation de travaux de fondation que l'on découvre l'entrée d'un souterrain. Ainsi, Élie de Beaufort nous raconte cette découverte près de Lavaupeau, dans la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Dans un petit pacage, sur le flanc d'un coteau, une vache entre une jambe dans le sol qui s'enfonce sous son pied et l'ouverture sondée fait reconnaître une cavité. Pour élargir l'entrée, on extrait par bloc le granit qui forme le sol. L'ouvrier est l'un des deux frères Puyferra qui présidait au travail. Ils disparaissent tout à coup, s'enfonçant dans le sol qui manque sous eux. L'autre frère, terrifié, s'approche du trou et parle à son frère qui répond avec l'ouvrier qu'ils n'ont aucun mal. Ils vont poursuivre l'exploration, descendre avec une échelle et une lumière et découvrir ainsi le souterrain de Lavaupeau et un couloir de plus de 7 mètres de long. Ce récit, maintenant toujours d'Élie de Beaufort, concernant la découverte du souterrain de l'Ajarlot dans la commune de Vareille. La femme Jolivet, vers la fin du siècle dernier, il s'agit du 19e siècle, avait établi un cuveau rempli de linge pour faire une lessive à la gauche de son foyer, lorsque le sol s'affaissa tout à coup. Le cuveau et son support disparurent dans la cavité où l'on descendit pour retirer le linge. Là, on vit une excavation creusée dans la roche en voûte, se dirigeant vers le nord, large d'environ 1,50 m et haut d'un mètre. Encore un autre exemple, à Segé ou Segé, pendant la période de l'hiver 1832, une vache passait devant la maison du sieur Benoiton, sabotier, au village de Segé, lorsque, au milieu du chemin, le sol s'enfonça sous ses pieds. Et c'est ainsi que fut découvert le souterrain de Segé. À Bannes, dans la commune de Cromat, un dénommé Aubrun, voulant réduire l'humidité de sa maison, décida de vider un fossé proche de celle-ci. Et là, il découvrit une petite porte cintrée haute de 1,30 m sur 80 cm de large. Croyant y découvrir un trésor, les voisins parcoururent le boyau qui s'offrait à eux sur plus de 8 mètres. Monsieur de Beaufort lui-même explora ce boyau en 1851. Il découvrit alors un couloir circulaire, mais aussi des fragments de vases en terre noire. À la Patoufière, près de la Trimouille, c'est en poursuivant un lapin que des jeunes gens le virent disparaître dans un trou et qu'ils découvrirent ainsi un souterrain. À Lavaux, près de Saint-Maurice-de-la-Souterraine, c'est un bœuf qui labourait qui s'enfonça dans le trou et y resta suspendu par le joug. À Fayolle, dans la commune d'Azrable, c'est un veau qui tomba dans un trou qui existait pourtant depuis longtemps dans le pacage. C'est en allant chercher son veau que le propriétaire, monsieur Jameau-Fils, découvrit l'entrée d'un souterrain. Ou parfois, plus simplement, comme à Basse-Neuil, dans la commune de Vareille, ce sont des enfants qui, en jouant, découvrent l'entrée d'un souterrain. Voilà, je pourrais multiplier les exemples. Sur tout le territoire du nord de la Haute-Vienne et de l'ouest de la Creuse, l'histoire est la même. Monsieur de Beaufort, le spécialiste, précise qu'il sent les villages qui possèdent des souterrains. Il écrit à propos du hameau du Peu dans la commune de Vareille, dit Peu-Barbasson, avec à proximité un autre peu, le peu de la ville, je dois, en passant, dire combien ce village sent, pour ainsi dire, le souterrain. La première fois que je vins, à sa seule vue, sans aucun indice, je pensais qu'il devait y en avoir. Il s'appuyait en particulier sur les zones pierreuses du chemin qui se dirige vers Fontvieille en traversant la Châtaigneraie. Il n'avait pas tort, on y découvrit 3 souterrains dans cette zone.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans Énigmatique souterrain du Limousin, voici la présentation que l'on peut lire. Objet de fantasme dans l'imaginaire collectif, les souterrains figurent souvent dans les légendes et les traditions orales rattachées à de nombreux sites. Parfois, ce sont des fées, des monstres ou des sorcières qui les habitent. Parfois, ce sont de vraies légendes qui se sont construites au fil du temps. C'est ainsi qu'on racontait que les habitants de Montbon, dans la commune de Saint-Martin-le-Mau, s'étaient cachés dans le souterrain pour se protéger de l'invasion des Sarrasins. Mais ces derniers y étaient entrés et les massacrèrent tous. Les ossements des victimes sont encore dans la retraite à une certaine profondeur et à droite, il y aurait un autel. C'est ce que racontaient les habitants encore au milieu du 19e siècle, mais aucun n'a rien vu ni visité avec une lumière. Il n'est pas un château fort, et même d'ailleurs un château tout court, dont on dit qu'il possède un souterrain, souvent d'une longueur démesurée, plusieurs kilomètres, et dont l'emplacement mystérieux est bien évidemment oublié de longue date. Il existe néanmoins dans ces légendes une certaine part de vérité. Nombre de châteaux forts, de places fortes, de villages médiévaux, ainsi que des églises possédèrent des aménagements souterrains à usage divers. Souterrain refuge, souterrain de fuite, souterrain à usage militaire, voire tout simplement des lacis de caves aménagées sur plusieurs niveaux ou parfois même des carrières souterraines. Cependant, aucun souterrain de 3 ou 4 km de long reliant 2 châteaux entre eux n'a jamais été découvert. Il est bien certain que les historiens des forteresses médiévales, sans nier l'existence de lacis plus ou moins complexes de souterrains, sont particulièrement prudents sur l'origine et l'utilisation de ces souterrains. Nous ferons part, nous aussi, de la plus grande prudence quant à l'interprétation de ces sites.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le 28 septembre 1908 se tenait à Bellac une conférence de François Richard, docteur en droit et spécialiste d'archéologie. Cette conférence, rapportée dans le bulletin du Dolmen Club de Bellac, avait pour titre « Vue d'ensemble sur les souterrains refuges ». Et dans un premier temps, il donnait la liste des souterrains refuges du nord de la Haute-Vienne. La voici. Ceux du Clujeau de Blanzac et de Sissac à Peyrat-Béac, ceux de Villarcouin et de Friodour près de Saint-Pardoux, la cabane des fées de Château-Ponsac, celui du Soulier à Saint-Amand-Magnazet, celui de Dinsac et du bourg de la Croix-sur-Gartempe qui aboutit à l'église, celui de Magnac-Laval, celui de Montrol-Sénard, ceux très très nombreux dans le canton de Nantia, à Nantia même, place de la Motte. Nous en avons déjà parlé. Au Mavieux et au Teil de Cieux, à la Jante, au Lac, aux Chabannes, aux Mavedrennes, à Puy-Meunier, dans la commune de Comprignac et ceux qui sont à proximité de l'église de Comprignac. Celui de Maisonneuve, dans la commune de Touron, ceux de Mazurat et d'Escura-au-Buis. Ils sont aussi très très nombreux dans l'ancien canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, où ils furent recensés par Émile de Beaufort et Roger Drouot. Arnac-la-Poste, Aubourg et Aubrousse-Perrault, on dit aujourd'hui les Brosses-Perrault, au Grand Chézeau, près de la Goutte-Bernard, à Cromat, à Bannes et à Ladan, à Lussac-les-Églises, à la Griminière, à Maillac, au Coudert, à Saint-Martin-le-Mont, à Mondon, à Saint-Sulpice-les-Feuilles, à Chegel, à Vaupeau, Puy-Ferrat et la Boutinière. Pardon pour cette longue énumération, mais pour prouver l'importance de la densité de ces sites, je vous donne encore quelques exemples dans l'ouest de la Creuse. Dans la commune d'Azrable, au Mât, à la Croix-Genêt, à La Fayolle, Mont-Dolan, les Grands Fonds, Mandresa, les Coutumes, Chanteloube, Aubipierre, dans la commune de Vareille, les Deux du Peu de la Ville, à Bouchet, les Prades, le Bois de la Coque, le Peu Barbasson, Basse-Neuil, les Bergerots, la Couture du Purfier, le Purfier, la Jarlot, les Champs des Lattes, les Sauvages, la Goutte Priée. Notre conférencier donne ensuite les caractéristiques de ces souterrains du nord de la Haute-Vienne. Une profondeur au-dessous du sol, entre 2 et 15 mètres. Parfois la présence de plusieurs étages superposés. Si le terrain est en pente, l'entrée est le plus souvent en plan incliné. Si le terrain est plat, l'entrée est formée d'un puits carré ou circulaire d'un diamètre de moins d'un mètre et d'une profondeur de 2 à 5 mètres, avec souvent des entailles servant de marche. L'entrée, les galeries et les salles sont en général creusées dans du tuf dur ou du granit friable. Les galeries ont une longueur de 60 cm à 3 mètres sur une hauteur de 60 cm à 5 mètres. Mais on trouve de nombreux goulets pour protéger l'accès. On trouve des réduits, des guérites, des niches servant de placards dans les parois de ces galeries. Ces galeries aboutissent à des salles de profondeur et de forme variables, mais dans tous les cas plus larges et plus hautes que les galeries. Dans la plupart de ces souterrains, on trouve aussi des silos forés dans le sol, des cheminées d'aération qui aboutissent à la surface du sol extérieur, des cheminées à feu souvent à l'extrémité des galeries, des supports d'éclairage, des glissières dans les galeries permettant de les barricader avec des madriers de bois, et parfois des outils ou des fragments de poterie, par exemple des écuelles. À partir de ces constats, François Richard nous dit que ces souterrains avaient trois fonctions essentielles. Servir de lieu d'habitation temporaire, par exemple pendant de très grands froids hivernaux. Servir de refuge pour de courtes durées, en cas de guerre, en cas d'attaque. Ou d'être utilisé comme réceptacle pour les récoltes, comme des caves ou des silos. Ajoutons que l'on trouve encore parfois des souterrains de fuite pour quitter un lieu en cas d'attaque, mais nous n'en avons pas dans notre liste. Ou encore, des souterrains cultuels, mais là encore, l'interprétation nous paraît bien délicate. Dans tous les cas, l'existence de ces souterrains est liée aux habitats de surface, un château, une église, un village, un hameau. Et pourtant, certains ont été découverts loin des constructions. C'est tout simplement qu'il existait là des habitats écroulés ou disparus, ou plus simplement des habitats temporaires.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous terminons avec des extraits de l'intervention de Luc Stevens lors du séminaire d'archéologie de novembre 2013, intervention consacrée aux souterrains aménagés. Ces souterrains aménagés ne sont généralement utilisés que de manière sporadique dans le temps. Ils ne constituent pas un habitat à proprement parler, mais en font partie intégrante. Les souterrains refuges sont les plus nombreux, creusés le plus fréquemment sous des habitations ou de petits châteaux. Ils sont constitués de petites galeries étroites et sinueuses. Ils étaient destinés à protéger quelques familles de réfugiés des troupes armées et des bandes de pillards qui sillonnaient les campagnes. Ils présentent des aménagements de confort tels que des banquettes, des niches, des silos et des aménagements de défense tels que des fermetures, des puits-pièges ou des goulots. Les souterrains de stockage, eux, n'ont pas été conçus pour accueillir des personnes pour une durée longue. Ils ont un caractère purement utilitaire en relation avec les activités de surface. Les galeries sont alors relativement larges, aisées d'accès, ponctuées de fermetures destinées à sécuriser l'accès aux richesses entreposées et des serves, des salles où sont stockées les denrées. Quant à la datation de ces souterrains, il convient d'être particulièrement prudent. Certains les attribuent à l'époque gauloise ou à la période gallo-romaine, mais il semble bien que le plus grand nombre d'entre eux datent plutôt du Moyen-Âge et surtout de la période du XIe au XIIIe siècle. Ajoutons cependant que plusieurs de ces souterrains ont pu être utilisés et réutilisés à des périodes différentes, ce qui rend leur datation encore plus complexe. On a parfois qualifié ces souterrains de châteaux forts des pauvres. Dans les villages, les hameaux qui ne possédaient pas de système défensif, le souterrain était un refuge défensif remarquable. En effet, tenter de s'emparer d'un souterrain refuge présentait un risque réel pour les assaillants qui étaient obligés de progresser courbés ou à quatre pattes dans des boyaux inconnus, étroits et obscurs où ils pouvaient à tout moment être atteint d'un coup d'épieu ou d'une décharge d'arquebuse jaillie d'un trou de la paroi, soit être agressé par un puissant chien de guerre. Tenter de s'emparer d'un souterrain refuge était donc un risque disproportionné par rapport au butin à espérer. En effet, les paysans qui se terraient dans ces refuges étaient très pauvres pour la plupart. Ils n'emportaient avec eux que le strict nécessaire en nourriture, ainsi que les quelques pièces de monnaie qui constituaient toutes leurs maigres économies. Les souterrains refuges, habilement aménagés, ont donc constitué une remarquable protection contre les raids de soldats et de pillards qui, au Moyen-Âge, ravageaient les campagnes pendant et après les conflits. Les routiers, les écorcheurs, les troupes anglaises, voire les soldats de l'armée royale. Ces pillards ne restaient d'ailleurs que fort peu de temps dans les villages où ils passaient. Éventuellement, ils s'emparaient des objets et de la nourriture que les habitants n'avaient pu emmener sous terre, puis repartaient le lendemain ou deux jours après, parfois après avoir incendié quelques maisons. De par leur fonction défensive remarquablement efficace, les souterrains refuges ont été très justement qualifiés de châteaux forts des pauvres. En effet, on constate une plus grande densité de souterrains refuges dans les campagnes qui ne possédaient pas de villes fortifiées ou de châteaux forts à proximité. Dans ces régions a priori défavorisées, les paysans, contraints de s'en remettre à eux-mêmes pour assurer leur protection, y creusèrent en grand nombre leurs châteaux forts souterrains. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, intitulée « Quelques notes sur les souterrains et les cavités aménagées de la Basse Marche ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie d'Élie de Beaufort, de Roger Drouot, de François Richard, de Serge Galli, d'Adrien Blanchet et de Luc Stevens. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux compositeurs René Aubry, Frédéric Laurent, Claire Delerue et au groupe Maluzerne. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. Avec lui, découvrez l'histoire, le patrimoine et la personnalité de la basse marche. Avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.